Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, je vous invite à ouvrir votre Bible dans le livre de la Genèse, le livre des commencements, et nous allons expliciter ce texte qui nous parle des origines de la chute de l'homme. Alors voilà, nous allons lire quelques versets et ensuite j'y apporterai un commentaire. Genèse chapitre 3, verset 1er. Le serpent était le plus rusé de tous les habitants, de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous nous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il prit de son fruit et en mangea. Il en donna, elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Voilà pour cette lecture, elle est amplement suffisante pour donner une explication à notre texte. Deux mots d'une réalité permanente dans l'histoire humaine. Le mal et la mort. Une question éternelle, nous pouvons le vérifier encore aujourd'hui. Et avec cette interrogation, comment le mal a-t-il commencé? Comment la mort est-elle survenue? J'aimerais donner, pour illustrer le propos, cette anecdote qui tourne autour d'une question, la même question qui a été posée un jour par des étudiants, ce à quoi le professeur dessina en guise de réponse un énorme point d'interrogation au tableau. Une foule de gens s'arrête devant le point d'interrogation sans chercher davantage d'explication. Notre professeur reprit sa craie et d'un geste rapide transforma le point d'interrogation en serpent dressé prêt à mordre. Le chapitre 3 de la Genèse n'a pas d'autre réponse sur les origines du péché et ses tragiques conséquences. Les protagonistes du récit sont les suivants. Le Dieu créateur, plein d'amour et d'attention pour l'être vivant et humain, qui lance dans la carrière de la vie, de la découverte et de l'expérience du bien et du bon. Il y a également l'homme et sa femme, qui sont nommés dans notre Bible Adam et Ève, et qui représentent le couronnement de toute la création divine, créature supérieure, intelligente, composée de ces trois éléments, un corps, une âme, un esprit, et à qui reviennent, selon la parole de Dieu, la domination du monde et de la terre. Jusque-là, il n'y a aucune ombre, c'est l'harmonie, la paix, la confiance, c'est-à-dire tout ce qui porte le nom de bonheur, de nom d'existence, de nom de vie particulièrement. Maintenant, après avoir entrevu le génie créateur de Dieu et sa réussite, c'est-à-dire l'univers minéral, végétal, animal, humain, un être sournois entre brusquement en scène. Il nous est parlé, le serpent était le plus rusé. C'est le serpent qui, en soi, était inoffensif s'il ne cachait pas en lui ou derrière lui une réalité invisible et redoutable, inconnue jusqu'alors et encore méconnu aujourd'hui. Satan ou le diable, ainsi est-il nommé dans l'Écriture sainte. La dénonciation de sa personne et de son œuvre se fera par la bouche même de Jésus, son vainqueur. Dans l'évangile de Jean au chapitre 8 au verset 44, Jésus fera cette dénonciation en ces termes, en ce qui concerne ses opposants, des hommes de la religion judaïque, il dira « Mais vous avez pour père le diable, il est meurtrier et il est menteur depuis le commencement. » Relevons la subtilité mensongère. Dans le verset 4 à 5 que nous avons saisi dans le livre de la Genèse il y a un instant, il nous est dit « Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant précisément le bien et le mal. » De fait, l'homme a été précipité dans la connaissance du mal, mais du même coup, il a perdu la connaissance de la vérité de Dieu, de l'identité de Dieu, de ce qu'est Dieu, son créateur. Sur le tableau noir de la conscience et de l'esprit humain, l'hypothétique point d'interrogation demeure, les pourquoi et les comment de la vie. Un voile est tombé sur les cœurs, qui est le siège de la volonté, on appelle cela naturellement l'âme, de la raison, de la pensée, de l'intelligence, et ce voile donc tombé sur les cœurs, où règne désormais le doute et la méfiance inspirée par cette fameuse parole que nous avons prononcée tout à l'heure, « Dieu aurait-il réellement dit ?» C'est vraiment la parole du doute, c'est la parole de la mise en cause de la parole de Dieu, et qui fait de Dieu un menteur. Dieu aurait-il réellement dit ? Aurait-il dit la vérité ? En Éden, Satan a fait miroiter la connaissance comme la suprême convoitise et paradoxe. C'est lui qui, à travers tous les temps et tous les âges, qui empêche la créature, c'est-à-dire l'homme, de connaître son créateur. Pour preuve, nous avons ce texte que je relis brièvement dans 2 Corinthiens chapitre 4 et au verset 3. Il nous est dit, et c'est Paul qui parle de cette manière, il dit « C'est notre évangile, un évangile de révélation du salut de Dieu, de ce qu'est Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire l'adversaire, le diable, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, qui est précisément l'image de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. » Voilà ce que nous pouvons dire déjà de cette situation. Donc, nous apercevons que de fait, l'homme a été précipité dans la connaissance du mal, mais du même coup, donc, nous l'avons dit, il a perdu la connaissance de la vérité de Dieu. Alors, dans la suite de notre méditation, nous pouvons ajouter que l'espèce humaine est tombée victime de la duperie de l'esprit du mal, de l'esprit de l'adversaire, de l'esprit du diable. Mais pour tout authentique croyant, et c'est vraiment la différence qui peut être faite aujourd'hui, avec cette connaissance de l'Évangile, alors pour tout authentique croyant, on sait maintenant ce qui se cache derrière le point d'interrogation. Un coin du voile est levé, le mystère que l'on appellera le mystère de l'iniquité selon les propres paroles de l'apôtre Paul, nous savons maintenant ce qu'il en est exactement. Les affirmations bibliques, nous les recevons par la foi. C'est la Bible qui nous enseigne, c'est elle qui nous met en connaissance de ce qui est vrai, de ce qui est faux, du bien, du mal, de la lumière, des ténèbres, et de nous parler à la fois des trois dimensions que nous avons, dimension donc d'un surnaturel divin, d'un surnaturel malin et d'un surnaturel humain. Donc ces affirmations sont là devant nous pour que nous puissions prendre toute la mesure et que nous puissions nous faire une véritable idée sur tous ces mystères de l'existence, tous les mystères de la vie, tous les mystères de la mort, du mal, quoi qu'il en soit. Il y a une autre question, pourquoi Dieu a-t-il permis à Satan d'entrer dans le jardin ? Voilà, ce jardin avait été réservé pour l'homme et la femme, premier du genre, et il y avait là tout un contexte de réalisation d'une existence heureuse. Alors, pourquoi Dieu a-t-il permis cette entrée dans ce jardin que l'on appelle le jardin des hommes ? Il faut dire tout de suite, c'est que l'homme n'est pas une marionnette. Il est une créature libre. Et à ce titre, l'homme possède depuis toujours ce qui fait sa supériorité, c'est-à-dire la capacité de choisir. Choisir en fonction, eh bien là, de ce que sa conscience lui dicte, lui parle, et nous voyons que c'est un don de Dieu. En toute chose, pour accéder à la maturité, il faut pouvoir exercer son libre arbitre. C'est ce que l'on fait avec les enfants, on leur apprend eh bien, à distinguer de ceci, de cela, à montrer eh bien, ce qu'il convient, ce qui est moral, ce qui ne l'est pas, etc., et d'autres choses comme ça. Donc, l'on libre arbitre, parce que qui dit libre arbitre dit liberté, dit choix, et toute décision de choisir suppose une épreuve et un test. Un test, c'est exactement eh bien, ce que nous voyons dans ces premières pages de la Bible, où le chapitre 3, c'est véritablement le test que Dieu porte à l'homme pour savoir, eh bien là, quel choix va-t-il faire? Voilà la réponse au pourquoi Dieu permet-il. Et c'est quelque chose de fondamental dans notre monde, dans le monde des hommes, eh bien, de ce que cette créature qu'est l'homme puisse se déterminer. Nous allons dire quelques mots sur la malignité du diable. La tentation, voilà, ça c'est véritablement son arme de prédilection, et nous nous apercevons que lorsque nous repassons, eh bien là, et que nous repensons à ce passage lu il y a quelques instants, il ne s'agit pas d'un grossier mensonge, mais plus subtil était de faire passer Dieu pour un injuste. Aux yeux de d'Adam et Ève, le diable qui se cachait derrière, eh bien, ce serpent, eh bien, était justement, eh bien, l'accusation de Dieu de le faire passer pour injuste, mauvais, méchant, et donc en refusant de leur donner de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On sait très bien que dans le chapitre 2, Dieu avait en effet pris l'homme et lui avait dit, voilà, il y a ici l'arbre de la vie, et puis à côté, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de la vie, c'est l'arbre de la bénédiction, c'est l'arbre du salut, c'est l'arbre qui conduit finalement, eh bien là, à une réalisation pleine et entière dans tout le plan de Dieu. Et puis il y avait naturellement l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et là, c'est cet arbre mystérieux dont nous parlons maintenant. Donc, de pouvoir accuser Dieu d'être imparfait, d'être sévère et dominateur. C'est ce que nous constatons. L'erreur d'Ève en la matière a été d'écouter la suggestion et d'y répondre, donc d'y croire. Parce que elle a prêté l'oreille, elle a répondu, et le fait d'écouter et le fait de répondre, c'est qu'elle croyait à ce qu'elle a entendu. C'est qu'elle a porté finalement foi, elle a porté confiance à ce langage qui était un langage que elle ne connaissait pas, mais elle y a porté crédit. Le mal était déjà fait par le fait d'écouter, de répondre et de croire. La confiance n'étant plus intègre dans le cœur d'Ève, Satan en a profité de cet avantage. Et à ce moment-là, et c'est pour ça que le serpent, ce reptile, est pris en image, c'est l'image emblématique finalement, eh bien, du poison, du danger et un danger mortel, eh bien, à ce moment-là, il injecta le poison fatal en affirmant le contraire de ce que Dieu avait dit. Parce que nous nous apercevons que là, eh bien, Dieu avait dit « Si vous mangez de cet arbre, vous mourrez ». Et voilà que, eh bien, par le truchement du serpent, Satan dit, lui, le contraire. « Vous ne mourrez pas ». Et il est dangereux de se livrer au péché, car nous ne savons jamais où cela peut nous conduire. Et nous allons dire quelques mots sur le mensonge qui va se répandre dans le cœur, dans l'âme, dans l'esprit d'Ève, et nous allons pouvoir eh bien décoder un petit peu ce mensonge. Qu'en est-il? Satan promettait l'immortalité, vous ne mourrez point, et c'est lui qui introduit la mort. Parce qu'en quelque sorte, eh bien Dieu dit la vérité et lui apporte le mensonge. Nous nous apercevons également que lorsque nous regardons de près, eh bien, cette suggestion mortelle, nous voyons que Satan promet la lumière. La lumière, et il sera appelé à travers toute la Bible, le prince des ténèbres et de la confusion. Et il dira à Ève, vos yeux s'ouvriront. Ils s'ouvriront certes, non pas sur la félicité, non pas sur le bonheur promis par Dieu, non pas sur la vie éternelle, non pas sur tout ce que, eh bien, Dieu avait désiré donner à sa créature, et cela d'une manière, permanente, mais vos yeux s'ouvriront sur tous les désordres du monde. Conséquence, finalement, de la désobéissance. Conséquence. Nous voyons que Satan promet aussi l'élévation de l'homme et de son émancipation, c'est-à-dire de son indépendance de son créateur. La déchéance en sera le résultat, la dépravation, la corruption. Et tout cela par le levier de l'orgueil. Et c'est là où nous voyons que le mal de l'humanité, nous pourrions dire la mise à mort de l'humanité, eh bien c'est faite par le levier de l'orgueil. Vous serez comme des dieux, ou vous serez comme Dieu. Mais le comme est tout à fait significatif de la dénonciation de cette phrase mensongère. C'est que être Dieu, c'est une chose, être comme Dieu ou comme des dieux, c'en est une autre. Et nous voyons que le cœur d'Ève s'est rempli d'orgueil à ce moment-là. De la pensée, puisqu'elle entend cette suggestion, cette proposition, aux actes. C'est ce qu'on appelle la convoitise. C'est-à-dire la convoitise est une sorte de feu irrésistible qui occupe la nature, eh bien, corrompue des hommes. Convoité est quelque chose d'irrésistible. Nous relisons le texte, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors elle prit de son fruit et en mangea, et l'en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Il y a ici les trois éléments qui sont à la base de tous les péchés qui existent d'une manière ou d'une autre, qu'ils soient d'ordre corporel, matériel, psychologique, mental, qu'ils soient moraux, naturellement, ou qu'ils soient même spirituels, eh bien voilà les trois éléments. D'abord, la convoitise. La convoitise de l'instinct naturel par rapport aux fruits qu'elle a vus et qui paraissaient bons à manger. C'est la jouissance des sens. C'est le bonheur, eh bien, déjà, finalement, en le bonheur qui peut être proposé, mais qui n'est pas le bonheur. Vous savez, le contraire du bonheur, c'est le malheur. Le bonheur était déjà total dans le jardin d'Éden. Alors, que demander Adam et Ève de plus? Ensuite, après la convoitise de l'instinct naturel, il y a la convoitise des yeux. C'est-à-dire ce qui, non pas seulement est seulement bon, mais qui est agréable à la vue. Et c'est l'éveil du désir de posséder, d'avoir, de consommer. Alors, quand ce sont des choses bonnes que Dieu a créées, il n'y a pas de problème, c'est tout à fait normal. Mais en ce qui concerne, eh bien, les choses que nous connaissons déjà instinctivement, eh bien, parce qu'elles sont agréables à la vue, alors à ce moment-là, nous nous précipitons, mais elles ne sont pas toujours morales, elles ne sont pas toujours, en effet, de vérité, et c'est là où nous pouvons tomber dans le piège. La convoitise de l'instinct naturel, la convoitise des yeux, agréable à la vue, et l'orgueil de la vie, nous en avons parlé précédemment, où la suggestion sera « Il est précieux pour ouvrir l'intelligence à connaître, connaître tout, connaître tous les mystères, connaître l'univers. » Et ça, eh bien, est signé de la vanité, une fausse sécurité de l'ego, une orgueilleuse assurance qui fait croire que nous pourrons nous passer de Dieu et le remplacer par des futilités, par des vanités qui deviennent à terme, eh bien, des buts de la vie qui donnent un sens à l'existence alors que c'est un contresens et où nous en faisons des idoles, y compris toutes les passions qui peuvent exister, qu'elles soient d'ordre idéologique, philosophique, qu'elles soient d'ordre religieuse d'une manière ou d'une autre, tout simplement. Alors, ces trois convoitises qui s'allument dans le cœur à mesure que s'éteint la confiance en Dieu, parce que les deux ne vont pas ensemble. Soit notre cœur est rempli finalement de foi et de confiance et d'amour, donc résultat de l'amour, eh bien des hommes pour Dieu, ou alors à ce moment-là, eh bien il va y avoir un transfert. C'est-à-dire que le cœur va se vider de toutes ses bonnes dispositions pour être rempli de pseudo-bonnes dispositions, mais qui fait en fait, eh bien vont s'avérer véritablement nuisibles pour l'homme. Donc ça s'allume dans le cœur, et à ce moment-là, eh bien en même temps va s'éteindre cette confiance en Dieu, et cela va produire l'affaiblissement de la foi, l'irrespect finalement de Dieu et cette crainte d'être jugé par Dieu, ce qu'on appelle la culpabilité. Le processus est ingénieusement maléfique et les résultats sont infernaux. Dans l'épître de Jacques, il nous est bien donné cette notion qui nous est rappelée dans le chapitre 1er, verset 13 à 15. Il nous est dit « Mais que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté par ce qui est attiré ou quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consumé, produit la mort. » Et c'est ça justement le drame de notre humanité, c'est que quelque part, ce feu est allumé, cette propension au mal, même si nous n'y voyons pas le mal dans l'immédiat, mais néanmoins il va faire son travail. On a parlé de venin qui finalement faire son œuvre. Nous avons lu que c'est l'aboutissement, c'est la mort. C'est l'apôtre Paul qui rappellera cette vérité, ô combien essentielle. Il dira, mais le salaire du péché, le salaire du mal, le salaire de celui qui finalement se prête au mal, aime le mal, l'injustice, c'est la mort. Et tout de suite, dans notre texte lu à l'origine, il nous est dit qu'elle a vu qu'il était finalement bon à manger, qu'il était agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Et le texte nous dit d'une manière très lapidaire, et elle en mangea. Et vous avez remarqué quelque chose, c'est qu'elle n'en a pas, elle n'en mourut pas. Voilà. Ça pouvait donner éventuellement soutien aux allégations du diable, c'est-à-dire qu'elle n'en est pas morte immédiatement. Et le péché, il faut bien le dire, et c'est un piège, le péché ne tairait jamais le coupable immédiatement. Son œuvre est silencieuse. Son œuvre est insidieuse, comme le venin dont nous avons parlé, qui s'infiltre lentement pour mieux endormir, anesthésier, finalement banaliser, de dire, c'est pas si mal que ça, tout le monde le fait, etc., avec toutes les raisons qu'on peut se donner, puis finalement, tuer. C'est ça, justement, le grand drame. Et dans le livre de l'Ecclésiaste, je rajoute un verset à cela, il nous est simplement dit, parce qu'un jugement, une condamnation contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux du désir de faire ce qui est mal. Parce que les choses se font dans le temps. Et quelquefois, il faut une vie pour s'apercevoir de la nocivité du péché, du mal, de la corruption, à travers toutes sortes de comportements, toutes sortes d'ingestions de substances, que ce soit l'alcool, la drogue ou autre chose. C'est pas immédiat. Ce n'est certainement pas cela. Le phénomène de la guerre, c'est qu'avant, il y a eu toutes sortes d'inimitiés, voire d'adversion pour l'autre, et qui à un moment donné entraîner la mort à grande échelle. Ève tomba, elle en mangea, donc elle est tombée, et elle poussa ensuite Adam à tomber, et de là à dire que le péché entraîne au mal, nous pouvons ajouter qu'il est extrêmement contagieux. Voilà. Nous pourrions dire l'exemple des autres, à travers le conformisme de notre monde, de notre société, ça a toujours été depuis des siècles et des siècles, et avec de bonnes raisons, en disant, mais si tout le monde le fait, c'est que ça doit être bien, et on se rallie à la majorité. Vous savez que quand Jésus est venu, il avait vraiment pas la majorité. C'était véritablement, celui qui a été à contresens, un véritable révolutionnaire, et il a prévenu. Il n'a pas condamné, il n'était pas venu pour condamner, il était venu pour sauver, mais en donnant un diagnostic sur ce qu'est le mal et sa contagion. Et toute l'espèce humaine a été contaminée. Et à travers ce virus, à travers ce mal, cette maladie, nous pourrions peut-être l'appeler comme ça si on veut s'y prêter, elle est la source de toutes les discordes, de toutes les accusations, de toutes les abominations, de toutes les traîtrises et de toutes les accusations. Adam dira à Dieu qu'il l'interroge sur sa faute, « Mais c'est la femme que tu as mis à mes côtés. » Faisant de Dieu à ce moment-là, l'accusé d'avoir donné à Adam une compagne qui l'a entraîné dans cette voie. L'accusation, c'est quelque chose qui ressort de notre texte. Et nous nous apercevons que la ronde infernale de la haine et de la guerre a bien débuté à ce moment-là. C'est la femme que tu as mis à mes côtés. Alors que s'il y avait quelqu'un qui était responsable et qui avait entendu plus que Ève l'interdiction ou la mise en garde, c'était bien justement Adam. Satan avait promis la connaissance. Au verset 7, nous l'avons lu tout à l'heure. Eh bien, la connaissance. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. De l'état originel d'innocence, c'est-à-dire sans péché, ils vont passer à l'état de la conscience du mal. Du bien, mais du mal. Le mal qui a amené le désordre, qui amène la désunion, qui amène la haine, qui amène l'inimitié, qui amène finalement ce « tu ne tueras point », ce que les hommes ont toujours et n'ont jamais cessé de pratiquer. Et la conscience à ce moment-là va devenir conflictuelle. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans cette direction ou je vais dans l'autre? Je marche à la lumière ou je marche dans les ténèbres? Je fais ce qu'il me plaît selon ce que mes yeux, mes pensées, mes désirs me portent? Ou alors à ce moment-là, je demande à Dieu qu'il me donne la maîtrise, qu'il me donne en quelque sorte cette tempérance pour réfléchir en tous les cas et faire le bon choix. Donc constance conflictuelle, qui va être une accusation personnelle, on peut l'appeler tout simplement, l'auto-accusation, ou tout simplement, ce que nous connaissons les uns et les autres, et qui ravage parfois, et qui empoisonne notre vie, et qui accuse sans cesse, tu as fait le mal, c'est la culpabilité, et la culpabilité, c'est la honte, tout simplement. Première conséquence, qui poursuit encore l'humanité de nos jours, c'est la réponse qui est donnée au verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et de l'homme et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel au milieu des arbres du jardin. Dans ce que nous avons là devant nous, et je poursuis verset 9 et 10. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit : Où es-tu ? Il répondit : J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu, je me suis caché. Et l'Éternel dit, qui t'a appris que tu es nu? J'ai eu peur. Voilà une des conséquences, la peur qui est introduite, alors qu'elle n'existait pas, alors qu'il y avait une confiance parfaite, alors qu'il y avait une sérénité et, nous pourrions dire, la paix en tout et partout et surtout. La voix de Dieu qui avant faisait les délices d'Adam va le remplir à partir de ce moment-là d'effroi. La vérité lui apparaît soudain. Sans Dieu, qui est pour Adam sa source vitale, à ce moment-là, il va prendre conscience qu'il est pauvre, il est aveugle, il est nu, et il se découvre tout simplement un être animal, un être primaire. Il a perdu véritablement, sa dimension pour laquelle il a été créé, c'est-à-dire la dimension spirituelle, son esprit. Il va se retrouver enfermé dans un corps qui va tirer à hue et à dia selon ses instincts, selon tout ce qui peut agir autour de lui et en lui, dans son environnement. Et puis quant à son âme, elle est écartelée entre faire la volonté de Dieu et puis répondre aux instincts primaires. Alors il est déchu de sa position initiale, qui faisait de lui un roi, parce que c'était bien cela que Dieu avait voulu. Alors il a honte, et parce qu'il a honte, il se cache. Et il se cache, il fuit devant la réalité. Il a été vaincu et désormais il apprendra ce qu'est le bonheur par l'expérience du malheur. Jésus nous l'illustrera d'une manière extraordinaire lorsqu'il donnera cette petite parabole, en tous les cas on l'a appelée la perle des paraboles dans Luc chapitre 15, qui est la parabole du fils prodigue, c'est-à-dire ce garçon qui a tout. Il est dans le bonheur parfait, ou presque, humainement parlant, si l'on peut dire. Mais toujours est-il qu'il est dans une maison, il a un père, il a une famille, il est un fils privilégié, il a tout ce dont il a besoin, et à un moment donné, il lui vient à l'idée de partir, eh bien, loin de la maison paternelle, et ainsi de partir à l'aventure, là, dans toutes sortes de pays, de découvrir toutes sortes de choses, et pas des meilleures, puisque nous le retrouvons à un moment donné, eh bien, dilapidant sa fortune, vivant avec des prostituées, vivant là avec, dans la débauche et dans toutes sortes de choses, jusqu'au jour où il va apprendre qu'il était heureux lorsqu'il était dans la présence de son père, dans la maison paternelle, et que là il va devoir souffrir et descendre au plus profond de la fange, et s'apercevoir que, eh bien, le bonheur qu'il avait auparavant, eh bien, il l'a perdu, et qu'il va en même temps avoir ce désir, eh bien, de retourner vers son père, de lui demander pardon, de se repentir, et de retrouver sa condition d'avant. C'est l'histoire du fils prodigue, c'est une histoire qui illustre bien, eh bien, la mésaventure des hommes qui ont rompu avec Dieu et qui veulent revenir vers Dieu, et la possibilité est donnée. Adam a peur de la lumière, parce que Dieu est lumière. Il a peur même, finalement, eh bien, de celui qui l'a créé, car elle le dévoile. Et c'est aussi, eh bien, dans ce que Jésus nous dira dans l'évangile de Jean, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Ils préfèrent vivre dans la misère. Ils préfèrent vivre avec toutes les difficultés de l'existence. Ils préfèrent vivre, eh bien, là, dans tout simplement dans des situations misérables et par déni, parce qu'ils ne veulent pas voir la lumière. Et la lumière les met confrontés à eux-mêmes, et ça, ils ne le supportent pas. Donc, ils ont préféré. Il a peur de la vie, car il est obligé de compter désormais sur la réalité terrible de la mort. Et je pense que c'est l'obsession du monde encore d'aujourd'hui, c'est-à-dire que nous savons que nous vivons, mais un jour nous mourrons, d'une manière ou d'une autre, jeune, moins jeune, très âgé, peu importe. Mais ça, c'est la réalité de la mort. Alors, il a peur de l'avenir, parce que la confiance a été détruite. Et on ne peut pas construire l'avenir dans n'importe quelle situation, n'importe quel domaine, si véritablement, eh bien, il n'y a plus de confiance. Il n'y a plus de perspective. Il a peur de tout. Il a peur de Dieu et de son châtiment. Le mensonge. Que le prix est élevé du mensonge. Et lorsque nous voulons faire l'évaluation du désastre, c'est quelque chose de terrible. La plus grande des tragédies de l'histoire de l'homme, d'où découlent toutes les autres, c'est le résultat de leur péché. On parle d'Adam et Ève, mais nous aussi, eh bien, tout simplement, parce que nous devenons des êtres mortels. Et le travail de la mort va commencer dans le corps, déjà tout petit, et au fur et à mesure de notre périple terrestre. Donc, ils vont devenir, et nous devenons des êtres mortels, et le travail de la mort va commencer à travers les maladies, les infirmités, les accidents, les douleurs diverses et le vieillissement et l'extinction ensuite. Les conséquences, ce sont les souffrances sur, eh bien, la part de la femme. Au verset 16, il est dit ceci, nous allons le relire, c'est très simple. L'Éternel donna cet ordre à l'homme, tu ne pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quand tu en mangeras, tu auras donc, ça c'est ce que nous avions vu, mais je reviens au verset 3. Il est dit ceci en ce qui concerne la femme. Dieu dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec la douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Celle de l'homme, également conséquence d'une vie dure et de pénibilité. Verset 17, ou l'autre. Dieu dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet arbre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi, c'est à force de peine que tu en tireras ta vie, ta nourriture, tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs, c'est à la sueur de ton front et tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu étais pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Est-ce que ce n'est pas finalement le drame des siècles à travers l'esclavage, à travers là, eh bien, la sélection des races, avec cette haine raciale, à travers toute cette agitation sociale dans le monde qui n'a jamais cessé et qui existe encore aujourd'hui. Et ça, c'était la part de la femme, ses grossesses. La part de l'homme, c'est le travail pénible. Et puis, pour oublier cette peur de Dieu, le monde va s'étourdir dans le plaisir à la recherche du paradis perdu. Essayez de vivre sans Dieu. Essayez de vivre sans espérance. Essayant de se donner des pseudo-espérances, essayant de décrocher la lune, essayant de partir à la conquête de l'impossible, faisant des choses inouïes d'une manière ou d'une autre, et tout cela pour s'étourdir, se donnant des plaisirs insensés parfois, des plaisirs mortels. Si nous pouvons donner une conclusion à notre message, c'est que Dieu voulait le bonheur de ses créatures et une autre destination. En se retirant de la bienveillante dépendance de Dieu, l'homme est responsable, mais trompé. Parce que nous avons vu cet agent étrange, étranger, invisible, pensant et intelligent, qui lui lance un défi à Dieu et en même temps il lance un défi à la créature. Donc nous sommes responsables, mais nous avons été trompés. Mais quand on a été trompé, il y a toujours auprès de Dieu, et ce Dieu qui est parfait, une possibilité de retour et de pardon. Et c'est ce que l'on appelle tout simplement l'évangile, qui veut dire, eh bien, la bonne nouvelle. C'est Dieu qui, le premier, ouvre la porte de la grâce. Dans notre chapitre 3 et au verset 14 et 15, c'est intéressant parce que c'est le verset clé, l'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails. » Et entre tous les animaux de la terre, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Le verset 15 est essentiel. Je mettrai inimitié, je mettrai la haine, je mettrai l'opposition entre toi et la femme, entre le serpent et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Écoutez les conséquences, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il est intéressant de prendre en considération, avant de finir, que là nous avons la première promesse, finalement, première promesse du salut, que Dieu a donnée aussitôt la chute de l'homme. Et cette promesse de salut comporte un retour, l'image de revenir, de sortir de sa cachette en quelque sorte pour paraître à la lumière et demander pardon, plaider la réconciliation et le retour à la confiance. « Je mettrai inimitié entre toi, entre le serpent et la femme, postérité contre postérité. » Il va y avoir à partir de ce moment-là deux races qui vont s'affronter. Les tenants du mensonge et qui restent dans leur mensonge parce qu'ils aiment le mensonge et qui produit la révolte contre Dieu et qui fait que ce positionnement se caractérise par une incrédulité foncière. « Je ne crois pas. Je ne veux pas croire que, eh bien, Dieu est ceci, que Dieu est cela, que Dieu est Dieu. » Ça, c'est l'incrédule. Et puis, à côté de cela, il y a les tenants, ceux qui, par amour de la vérité et de la justice, reviennent vers Dieu. Promesse qui traverse l'histoire. Parce que nous nous apercevons que l'histoire biblique est jalonnée de ce plan de salut. Dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, personnages qui apparaissent, des hommes, des femmes, qu'ils soient prophètes, qu'ils soient rois, qu'ils soient, peu importe la condition qui est la leur, mais une chose, c'est que cette promesse traverse toute l'histoire biblique. Ève est la première femme qui a fait sortir l'homme du paradis. Et puis viendra, des siècles plus tard, une autre femme. Elle s'appelle Marie. Elle est la mère de Jésus. Et elle sera la deuxième femme qui met au monde, elle sera la femme qui met au monde le Sauveur, qui ramènera l'humanité vers Dieu. Comment ? Parce que justement, cet enfant qui naîtra de Marie, eh bien, a été livré à la mort. Il a été blessé au talon, selon notre texte, pour notre salut. Et le diable qui a triomphé en crucifiant le Sauveur, mais Jésus est ressuscité, et la mort et son auteur ont été vaincus pour toujours à cause de la résurrection. Tu lui écraseras la tête. Jésus a été blessé par les hommes et derrière le diable. Blessé au talon, c'est une blessure. Mais en ce qui concerne, eh bien, là, la stratégie de Dieu, le plan de Dieu, c'est que c'est beaucoup plus qu'une blessure qui va être infligée au serpent. C'est un écrasement de la tête, c'est-à-dire, eh bien là, que finalement, il sera complètement vaincu tu lui écraseras la tête et la victoire est totale. Et le rachat sera fait à ce moment-là. Alors pourquoi le mal? Pourquoi la mort? C'est l'enjeu. C'est un défi universel. Et la question que nous pouvons nous poser ce matin et qui ressort de cette méditation, mais quelle voix allons-nous écouter? Comme si nous nous replacions, eh bien, des millénaires auparavant, dans cette proposition, proposition du bien, proposition du bonheur, proposition de la vie sur cette terre, du bonheur terrestre, proposition du bonheur céleste, de l'immortalité. Et puis, d'un autre côté, il y a le diable qui dit, bah, écoute, voilà, mangeons et buvons, car demain nous mourrons, il n'y a plus rien après. Eh bien, justement, ce que nous suggère ce texte, c'est qu'il y a quelque chose après, mais dans un retour vers Dieu, dans une repentance, la réception d'un pardon, du pardon de Dieu, et puis un saisissement par la foi. Quelle voix allons-nous écouter? Est-ce que c'est la voix de l'ennemi? Est-ce que c'est la voix de Dieu et de sa parole? Ou est-ce que nous allons flotter dans le doute en disant, bien voilà, c'est toujours cette hypothétique point d'interrogation. Aujourd'hui, ce n'est plus un point d'interrogation, c'est une affirmation de Dieu, une affirmation, eh bien, que Jésus est sauveur, que Jésus est Seigneur, que nous pouvons lui offrir toute la place dans notre vie, dans notre cœur, et que le choix que nous faisons, c'est de mettre notre confiance en Dieu et de lui obéir, de le suivre et de lui donner complètement et totalement sa vie, parce qu'il est mort pour nous, et qu'en étant mort pour nous, par la foi dans sa mort et dans sa résurrection, nous vivons pour l'éternité. Ça, c'est notre credo, c'est notre foi évangélique. On va prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que ta parole, elle est magnifique, elle est merveilleuse. Et puis elle donne de l'espoir. Oh, quel espoir! Le mot est infime, le mot est insuffisant. Non, elle donne la vie. Elle donne la vie pour l'éternité. Elle nous amène à comprendre, Seigneur, ce qui est difficile dans ce mystère de l'iniquité, dans ce mystère du mal, que nous avons du mal à percer, Seigneur, parce que tout est mélangé. C'est vrai que dans ce monde, il y a du blanc et il y a en effet du noir, mais c'est souvent gris. C'est souvent difficile à discerner, c'est souvent difficile à déterminer. Mais Seigneur, pour celui qui aime la justice, celui qui aime la vérité, celui qui aime Dieu, qui veut aimer Dieu, qui aspire finalement à connaître Dieu, à découvrir sa parole qui nous parle de Dieu, qui nous parle surtout de Jésus-Christ. Eh bien, Seigneur, à ce moment-là, les choses sont tout à fait différentes. Et nous te remercions, bénis ta parole, bénis ceux qui l'entendent, bénis ceux qui la lisent, ta parole, bénis ceux qui, eh bien, Père éternel, en effet, peut-être à un moment particulier de leur vie, s'interrogent, se questionnent, sont dans une, en effet, peut-être, là, toutes sortes de perplexités, Seigneur, quant à leur propre salut, quant à leur propre vie, quant, peut-être, au regard et au souvenir de leur malheur. Eh bien, tu leur proposes, véritablement, de venir à toi pour trouver le bonheur. Mais ce n'est pas un bonheur fabriqué, c'est un bonheur, Père éternel, qui est au fond du cœur. Et quand bien même, Seigneur, tout bougerait autour de nous, ce bonheur-là, il ne peut pas nous être ravi. Ta parole nous dit, et c'est Jésus qui le dit, faites-vous des trésors dans le ciel. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous voulons te demander que, par ta parole inspirée, tu convaincs, tu bénisses, tu enthousiasmes, tu entraînes, Seigneur, vers toi des hommes et des femmes qui ne te connaissent pas et qui maintenant vont apprendre, parce que tu vas allumer un feu dans leur vie, dans leur cœur et dans leur âme, dans leur esprit. Et ainsi, Seigneur, ils te connaîtront. Ils te connaîtront, Seigneur, comme toi tu veux qu'ils te connaissent, c'est-à-dire dans la dimension de ton amour, de ta vérité, parce que nous voulons dire que, Seigneur, eh bien là, ta parole nous le dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et tu ajoutes, Seigneur, par rapport à nos tourments intérieurs, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, ceux qui croient en Jésus-Christ. Merci Jésus. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.